moi qui le tire.
Chers auditeurs de Radio Sud, chères auditrices également, nous voici de nouveau en culture. Ce n'est pas en voiture, c'est en culture. Hein. Donc l'émission des bibliothèques de Florentville, Jamoing, Girouville, une émission sur la culture, non pas des pommes de terre, bien que nous soyons dans le pays de la pomme de terre de Florentville, mais des livres, des histoires, des contes et des choses comme ça. Alors nous sommes avec Lou, qui est ici tout près de nous.
Bonjour, voilà, je vais vous parler chien aujourd'hui.
Ah ben voilà, seulement les chiens?
Un peu chat aussi.
Ah voilà, un petit peu de chat. Et ben moi je vais aussi vous parler chien, la communication avec les chiens, plus précisément. Et alors nous avons aussi par Zoom Coralie qui est là. Bonjour Coralie.
Bonjour.
Alors de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui Coralie?
Aujourd'hui je vais vous présenter trois jeux, toujours dans le prix Joker. Et pour trois catégories d'âge différentes.
Ah ben voilà, comme ça il y en aura pour tout le monde et pour tous les goûts. Et avec nous, nous avons aussi Isabelle, qui est
bonjour
dans...
Bonjour à toutes et à tous.
Elle est en réunion Zoom sur un bateau particulier. Elle flotte, elle flotte quelque part du côté de Chassepierre, je pense. La semoire voilà, est-elle débordée?
Presque.
Presque,
mais je suis dans les hauteurs.
Alors, si j'ai bien compris, tu vas nous parler aussi un petit peu d'une histoire de l'intérêt du bilinguisme.
Je vais parler chien et chat, puisque c'est ce que vous avez décidé de faire. Je vous suis volontiers. Et puis, je continuerai le voyage, c'est le cas de le dire, avec Marie Fizaine.
Ah oui, voilà, effectivement. Hein, où il sera question de Canada et de Chine.
Exactement.
Bien. Eh bien, en attendant, dans quel ordre as-tu choisi de proposer les jeux, Coralie?
Je vais commencer par le jeu pour les plus petits.
Allons-y.
Et ensuite, on va augmenter jusqu'à arriver au jeu des grands.
Ah. Nous t'écoutons.
Ok, alors, le jeu que je veux vous présenter s'appelle le Labyrinthe Magique. Si vous en avez déjà entendu parler, c'est normal. C'est un jeu qui est très connu parce qu'il a beaucoup, beaucoup de succès. Alors, c'est un jeu pour les enfants à partir de 6 ans. On peut jouer de 2 jusqu'à 4 joueurs et une partie va durer entre 30 minutes et 1 heure à peu près. Pour vous donner une idée, vous allez d'abord devoir construire un labyrinthe sous le plateau de jeu en plaçant des petits pions à droite et à gauche, des petits pions en bois. Ensuite, il faut mémoriser le labyrinthe, sa forme, voir un petit peu quel chemin on peut emprunter. Et enfin, on recouvre le plateau de jeu du labyrinthe et c'est à partir de là que le jeu va vraiment commencer. Alors, chaque joueur a un petit magicien en bois qui est relié à une petite bille métallique qui est sous le plateau. Et en fait, ça fonctionne avec un petit système d'aimant. Le but du jeu est de lancer le dé, de voir de combien de cases on peut avancer et d'avancer en évitant absolument de se prendre un mur du labyrinthe. Alors, on avance, c'est très bien, mais on avance pour récupérer des objets magiques. Le premier joueur à obtenir 5 objets magiques a remporté la partie. Et pour savoir si vous avez buté sur un petit mur, c'est très simple. La bille se détache, elle tombe et vous devez la récupérer et recommencer à zéro. Voilà, donc principe de jeu très très simple. Et au niveau des matériaux, on est sur du bois avec le magicien et le reste est en cartonné, avec la petite bille métallique évidemment.
Ça aide à développer la mémoire, j'imagine, ce jeu-là.
C'est ça, oui, c'est un jeu de memory, mais en version un petit peu plus sympa pour les enfants. Et en version pas très compliquée non plus, hein, parce que c'est à partir de 6 ans. Donc forcément, il faut que ce soit... pas trop compliqué, quoi.
C'est si pour eux, oui, bien sûr. Ben, c'est important, hein, le jeu, pour développer les différentes capacités des êtres vivants, que ce soit des petits humains ou des petits animaux. Le jeu a vraiment une dimension essentielle. Et d'ailleurs, si je me souviens bien, ça fait partie des droits universels de l'enfant, de jouer.
Oui.
Ça, c'est chouette.
C'est ça.
Qu'il y ait des gens qui pensaient à définir ça.
Oui, effectivement.
Et autant chez les enfants, ça va permettre de développer le langage, la psychomotricité, ce genre de choses. Autant, par exemple, chez les petits chats, ça va développer les instincts de chasse.
Exactement. Oui, oui.
Oui, absolument. Voilà. Alors, c'est vrai que je vais d'abord commencer par parler des chiens, si tu veux bien, Coralie, parce que les.
Vas-y, je t'en prie.
Oui, oui. Parce que j'ai trouvé à la bibliothèque un bouquin qui a été écrit en 1975 par Maurice Denusière, qui s'appelle Un chien de saison. Alors, c'est un bouquin tout à fait léger, un bouquin désuet. Le langage est tout à fait, allez, on va dire un petit peu ringard, on va dire ça comme ça. L'humour est très british. Et même si effectivement le style peut parfois paraître un petit peu suranné, c'est très plaisant à lire. Ça fait vraiment beaucoup de bien en ces temps un peu de maussade. Et c'est l'histoire en fait de Félix, un célibataire, une quarantaine d'années. Il a une vie bien rangée, tranquille. Et il accepte de prendre en pension un chien, un boxer bringé, donc une espèce de grosse bête, déjà une quarantaine de kilos, parce que les maîtres de Néron, c'est le nom du boxer, partent en vacances pour 3 semaines en Écosse. Et vous imaginez la suite, évidemment, Néron débarque dans l'appartement et il va bouleverser la vie de Félix. Parce qu'avec ses 40 kilos de muscles et de tendresse, il est un compagnon bien envahissant qui va mettre, je crois, non seulement l'appartement sans dessus-dessous, mais aussi le cœur de Félix. Alors c'est un petit livre attachant, aussi attachant que Néron et Félix. Je vais vous lire un tout petit extrait. C'est la première fois que Félix prend Néron. Et enfin, c'est comme ça que Félix décrit les promenades qu'il fait avec Néron et aussi le chien. Il décrit le chien. Vous voyez à quoi ressemble un grand boxeur de 2 ans. 40 kilogrammes de muscles gouvernés par une tête de colonel prussien amateur de pendule. Carré, massive, rébarbative et prolongée d'une truffe noire pareille à un vieux morceau de caoutchouc râpé. Ajoutez à ce faciès martelé de catcheur, des oreilles raides, coupées en pointe, une gueule hérissée de crocs, gros comme des dents de cachalot, mais traîtreusement dissimulées sous des lèvres pendantes et molles, prolongeant des bajoues flasques, et vous aurez le portrait de Néron. Peut-être faut-il préciser que le boxeur de mon ami est de robe bringée, à fond fauve, conséquence, affirment les spécialistes, d'un patrimoine héréditaire riche en gènes multiples à actions cumulatives. Alors la promenade de Néron n'est pas une promenade très facile. Quand un cheval change opinément de direction alors que vous le montez, vous êtes certain de le suivre spontanément. Or, quand le boxeur que vous tenez en laisse décide, pour une vague question d'effluve qui vous est tout à fait étrangère, de bifurquer frénétiquement en direction d'un réverbère, son démarrage vous surprend, vous déséquilibre, vous désarticule et vous oblige à des gesticulations propres à déchaîner l'hilarité des passants. Le cas extrême que je connus plus tard est la chute sur le bitume. La reptation incontrôlable au bout de la laisse du furieux, attache qu'il ne faut pas lâcher si l'on veut éviter le pire. Un tel risque ne peut cependant survenir qu'au passage d'une chienne se trouvant dans ces dispositions particulières qui affolent les mâles. Même nantis de pédigrés impressionnants, ces derniers sont incapables de dominer leurs bas instincts. Je vous conseille vraiment ce petit livre, c'est vraiment tout joyeux. Alors j'en ai un autre, qu'Isabelle, tu m'as conseillé, je l'ai emprunté aussi à la bibliothèque. Alors là, c'est John Fante, l'écrivain américain, et je ne savais pas que les chiens étaient stupides, je pensais qu'ils étaient intelligents, mais celui-ci est quand même légèrement stupide. D'ailleurs, c'est le nom du roman, ça s'appelle « Mon chien stupide », c'est un roman qui est paru en 1985, et qui raconte aussi l'irruption dans une maison d'un énorme chien. Alors ce chien s'appelle Stupide et il apparaît un jour d'orage dans la maison, enfin plutôt dans le jardin de la maison d'Henri Molise, qui est un écrivain qui a eu du succès mais qui, bon voilà, c'était il y a 25 ans, depuis lors il n'a plus écrit grand chose et il vit dans cette grosse maison avec sa femme et leurs 4 enfants. Et la vie se délite quand même pas mal pour cette famille-là, hein. Bon, Harriet, sa femme, bon, bah, elle boit pas mal pour oublier tous ses regrets. Et les quatre enfants sont tous décalés et vraiment passablement inadaptés. Alors, personne, hormis Henri, n'a vraiment envie d'accueillir la bête. Parce qu'en plus, elle est énorme, cette bête. C'est un Akita, c'est un énorme chien. Et outre sa corpulence, en fait, le chien s'avère totalement obsédé par des créatures mâles. Mais alors, il faut que vous sachiez que ces créatures peuvent être aussi bien canines qu'humaines. Donc, ça occasionne quelques situations un peu embarrassantes pour Henri, qui est le propriétaire du chien. Et donc, finalement, ce chien va mettre mal à l'aise, va mettre à mal plutôt l'équilibre qui est quand même déjà assez précaire dans cette famille. Alors, c'est un roman vraiment décalé. Moi, j'ai trouvé totalement politiquement incorrect, ce que j'ai plutôt tendance à apprécier. Et puis, drôle par moments, mais aussi pas comme un chien de saison de Denusière. Hein. C'est quand même parfois un peu tout à fait caustique, acide et voire tragique. Alors, je vais simplement vous lire un tout petit extrait pour que vous puissiez vous faire une idée de la différence entre les deux romans. Je vais vous lire le moment où il découvre le chien. Le tas était à une quinzaine de mètres du garage, en direction de la porte de derrière, sous le passage protégé de la pluie par un auvent qui dépassait du toit et faisait comme un porche. La main d'Ariette s'est refermée sur un pan de mon manteau. L'arme dirigée vers la bête, j'ai avancé sur la pointe des pieds, effrayé, en essayant d'accommoder sur la chose brouillée par la pluie. Une image s'est peu à peu formée. C'était un mouton qui gisait là. Je ne distinguais pas sa tête, mais son dos et son ventre laineux étaient parfaitement visibles. Brusquement, le vent a tourné, modifiant la direction de la pluie et métamorphosant l'animal. J'ai retenu mon souffle. Ce n'était pas un mouton, ça avait même une crinière. « C'est un lion », j'ai dit en reculant. Mais Harriet avait une excellente vue. Ah, certainement pas. Toute peur avait quitté sa voix. C'était juste un chien. Elle s'est avancée d'un pas confiant. Il s'agissait bel et bien d'un chien, un très gros chien, aux poils fournis, marron et noir, doté d'une tête massive et d'un court museau noir aplati, une tête mélancolique à la sombre gueule d'ours. Ben, je vous propose de faire la connaissance de Néron, c'est l'autre. Je me trompe, de Stupide. Voilà. Alors, je vous ai dit aussi que je vous parlerai chat, parce que quand on dit chien, moi je pense aussi chat. Alors, je me suis un peu amusée à chercher des expressions. Et là, j'aimerais bien, Jean-Marie, que tu interviennes, parce qu'il y en a qui sont un peu étranges. J'ai trouvé un proverbe chinois qui dit... Ce ne sont pas les puces des chiens qui font miauler les chats. Alors, je ne comprenais pas, mais je crois que toi, tu as une explication.
En tout cas, bon, les puces ont peut-être changé, mais quand j'ai terminé mes études, on disait que les puces de chiens n'allaient pas sur les chats. C'est en tout cas très rare, mais par contre, que les puces de chats allaient très volontiers sur les chiens. Et d'ailleurs, si vous avez un chien et que vous avez des puces à cause du chien, c'est généralement des puces de chats. Et donc, peut-être que les Chinois avaient déjà observé ça à l'époque.
Oui.
C'est plutôt les chats qui sont des sacs à puces.
Ah oui, je crois, effectivement. Et alors, évidemment, tout le monde connaît ces expressions. Se battre comme chat et chien, mauvais voisin, s'entendre comme chien et chat. Et puis là aussi, je pense que tu peux expliquer.
Oui, ce sont des malentendus, mal dit, allez savoir, mais ils parlent des langues tout à fait différentes. Quand le chien balance la queue, bah, tout le monde sait qu'il est content. Alors que c'est un signe de nervosité chez le chat. Donc le chien va approcher, va voir le chat qui balance la queue, va dire « Oh, il est tout content, celui-là, il est chouette,
je vais jouer. »
Alors le chat va avoir évidemment très peur, s'il ne connaît pas le chien. Il va feuler, qui chez lui est une manifestation de la peur, mais qui va être interprété par le chien comme une agression. Donc le chien va devenir un peu plus nerveux avec le chat. Et voilà, ça se termine généralement très mal. Enfin non, le chat s'enfuit. Mais bon, il y a généralement beaucoup de feulements, beaucoup d'aboiements et d'énervements de part et d'autre. Mais en fait, les animaux sont tout à fait capables d'apprendre le langage de l'autre. Hein. Tout le monde connaît.
Mais les petits chatons qui sont levés dans les grosses pattes des chiens. Non,
ils apprennent le langage l'un de l'autre.
Ah oui.
Et donc, ils s'entendent très bien, en fait. Mais c'est juste des... des erreurs de communication.
Mais comme chez les humains, en fait. Il y a beaucoup de problèmes qui disparaîtraient si on était plus précis dans ce qu'on disait et qu'on se comprenait que les malentendus n'existaient pas.
Hein. Est-ce que tu n'as pas une citation de Galabru, tiens ?
Ah oui, j'ai une citation de Galabru qui est très drôle. Il a dit « Les hommes sont comme les chiens, ils viennent quand on les appelle. Les femmes sont comme les chats, il suffit de les appeler pour qu'elles s'en aillent. » J'ai trouvé ça très bon. Et puis, il y avait une autre aussi. Et là, je vais passer au chat. Hein. Ça, c'est Jacques Prévert, mais vous la connaissez certainement. C'est « Si je préfère les chats aux chiens, c'est qu'il n'y a pas de chat policier. » Vous connaissez
oui,
ça
oui. Ah, oui, c'est très
oui,
bon.
Oui.
Et alors, bon, c'était Brassens, moi, qui avait dit ça.
Non, c'est Jacques Prévert.
C'est Jacques
Prévert. Peut-être que Brassens l'a repris. Oui. Alors, je vais arriver à mon dernier bouquin, qui est un bouquin que je me suis mise au crochet avec très peu de succès, je vous le dis tout de suite. Mais j'ai trouvé un Do It Yourself pour les amoureux des chats. Alors, c'est un magnifique petit bouquin que j'ai trouvé à la bibliothèque à nouveau. Et alors, avec ce bouquin, vous avez des images de chats magnifiques, mais surtout des choses, des chaufferettes pour mains en forme de chat, des marque-pages en forme de chat, des bonnets en forme de chat. Vous avez aussi toute une rubrique où vous pouvez crocheter pour votre chat. Alors, je vous le conseille parce que non seulement c'est beau, mais en plus, enfin, je pensais que c'était simple à faire. Bon, ça s'avère assez compliqué pour moi, mais il faut que vous sachiez que je suis pas tout douée pour le bricolage. Je vais me contenter de faire un tapis antidérapant pour rebord de fenêtre. En aiguille à tricoter. Voilà. Je vous le conseille pour les longues soirées d'hiver qui nous restent à passer. Alors, en ce qui concerne mon choix musical, j'ai choisi... je reviens au chien. J'ai choisi Nino Ferrer avec Mirza. J'adore cette chanson. J'ai pris la version de Nino Ferrer. J'ai hésité un petit peu avec la version de Arnaud, qui est aussi excellente.
C'est pas pour toi de changer.
Je vais prendre Nino Ferrer. Et parce que j'ai une petite anecdote encore, si vous permettez. Selon certaines sources, cette chanson serait apparue comme ça, tout à fait... spontanément, je vais dire, lors d'un concert que Nino Ferrer donnait dans une discothèque en 65, un peu importe où dans le sud de la France. Et alors, entre deux chansons, il y a quelqu'un dans le public qui était sans doute venu avec son chien et qui a rameuté tous les spectateurs en disant « j'ai perdu mon chien » et il a crié « Mirza, Mirza ». Et alors, paraît-il, Nino Ferrer aurait saisi le micro et aurait entonné « J'avais pas vu Mirza ». Alors la chanson a commencé comme ça. Et voilà, où écoutons Nino Ferrer.
J'avais pas vu Mirza. La 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 la. J'avais pas vu Mirza. La 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 la. J'avais pas vu Mirza. Oh la 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 la. Où est donc passé ce chien? Je le cherche partout. Où est donc passé ce chien? Il va me rendre fou. Où est donc passé ce chien? Oh, ça y est, je le vois. Veux-tu venir ici? Je le répéterai pas. Veux-tu venir ici? Sale bête, va. Veux-tu venir ici? Oh, il est reparti. Où est donc passé ce chien? Je le cherche partout. Où est donc passé ce chien? Il va me rendre fou. Où est donc passé ce chien? Oh, ça y est, je le vois. C'est bien la dernière fois que je te cherche comme ça. veux-tu venir ici? Je le répéterai pas. Veux-tu venir ici? Oh, yeah. Ah oui, te voilà. Veux-tu venir ici? Oh, yeah. Et ne bouge pas. Veux-tu venir ici? Oh, yeah. Satané Mirza.
Bien, j'espère que Nino Ferrer aura retrouvé là où il est, Mirza, hein, qui depuis le temps l'aura probablement rejoint. Donc voilà, on a parlé de deux romans, en tous les cas, sur les chiens. Alors moi, je vais vous parler de deux livres qui parlent aussi de chiens. Le premier s'appelle justement « Parler chien ». C'est un bouquin de couleur grise, comme ça, avec une espèce de petit bulldog qui est dans une position d'invitation au jeu. Le sous-titre, c'est « Comprendre son comportement et ses mimiques ». C'est écrit par Barbara Schoenig et Kerstin Röhr. Je pense chez Delachaux Nestlé. Et donc ça, je l'ai trouvé à la bibliothèque de Florentville. Hein. Et l'autre, c'est « Maître et chien, communiquer sans aboyer ». C'est Mirko Tomasini. Voilà, ça dépend un peu de ce qu'on veut faire. Mais si vous deviez en prendre un, vous êtes pressé de comprendre quelque chose sur le chien, je vous conseillerais de prendre « Maître et chien, communiquer sans aboyer ». Parce que ça, c'est vraiment important. Et pourquoi est-ce qu'il dit sans aboyer? En fait, c'est parce que bon, l'humain peut aboyer s'il veut, ça ne sert à rien. Mais une dimension importante de ce livre-là, c'est de dire qu'on communique avec les animaux largement par le langage non-verbal. Donc la posture, l'attitude, c'est un peu comme si vous essayez de donner un ordre à quelqu'un et puis que vous prenez une toute petite voix fluette avec des intonations très interrogatives et hésitantes. Ben, y a une différence entre ce qu'on dit et ce qu'on manifeste avec son corps. Et le chien ne comprend que ce qu'on montre, plus ou moins.
Et c'est aussi le fait que le chien communique, a une communication non-verbale. C'est pas juste l'humain qui ne doit pas aboyer. C'est comprendre quand ton chien n'aboie pas, ce qu'il fait avec ses oreilles, avec sa queue, etc., j'imagine.
Oui, tout à fait. C'est tout à fait ça, oui. Et en fait, on a les mêmes neuromédiateurs, hein. On a la même structure de système nerveux, tout ça est vraiment pareil que nous. Et donc, ils ont les mêmes émotions que nous et ils ont la même manière de l'exprimer. Par exemple, quelqu'un qui est déprimé, il a l'air de crouler vers le bas, là, hein. Il est bossu, penché en avant, les épaules tombantes, etc. Ben, le chien fait la même chose, mais du fait qu'il est à quatre pattes, ça se présente un peu autrement. Et c'est très, très important de faire ça. Parce que vous pouvez vraiment avoir une communication épanouissante pour vous avec votre chien, mais aussi ça permettra au chien d'être à son aise. Alors je ne vais prendre qu'un exemple de comportement stupide de la part des humains et qu'on voit extrêmement souvent. Vous avez quelqu'un qui rappelle son chien. « Mirza, viens ici !» Et alors, bon, c'est le moment où on doit aller faire les courses, on est pressé, on est un peu énervé, on s'énerve. Alors le chien, il détecte déjà ça, que l'humain est un petit peu énervé. Il est peut-être question d'aller chez le vétérinaire, enfin, bon, des choses que le chien n'a pas du tout envie. Mm-hmm. Enfin, pour finir, on réussit à rattraper le chien, paf, on lui fout une baffe pour lui apprendre. Il faut bien savoir que les chiens n'ont pas d'idée de temps qui passe. Donc, le chien va se dire, ben, je rentre, je reviens, on fait ce qu'on me demande, et puis on me punit. Et alors, on met comme ça la double contrainte dans la tête du chien, et alors ça le perturbe.
Et c'est donc, il ne comprend plus rien.
Voilà, ouais, il est stressé. Un autre exemple assez classique, c'est un signe de soumission de déposer un petit peu d'urine comme ça en montrant son ventre. L'humain mal averti ou mal informé va se fâcher. Ben, le chien va essayer de marquer encore plus d'urine pour dire « je suis plus soumis, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je ne sais pas descendre plus bactères, moi. » Et donc,
oui.
Tout ça fait des problèmes relationnels qui finissent par se manifester soit par de la dépression. Et oui, les chiens sont déprimés. Ils reçoivent aussi des anxiolytiques et aussi des antidépresseurs. Et puis, surtout, un chien déséquilibré, c'est un chien potentiellement dangereux. Un chien qui est bien dans sa peau, qui a une bonne image de lui-même. C'est étonnant, hein, mais les chiens ont aussi une image de lui-même. Ils sont intégrés dans un groupe dans lequel ils sont respectés, dans lequel ils sont compris et dans lequel ils peuvent se faire comprendre. Et bien, ce chien-là ne pose jamais de problème. Par contre, il y en a beaucoup, beaucoup. Ben, faut dire qu'on voit les humains qui circulent et qui ont une santé mentale qui est quand même...
Donc à la limite, il faudrait que tout le monde lise, en tout cas les propriétaires de gros chiens qui lisent un livre tel que celui-là.
Oui, tout à fait. Oui. On n'a pas lié à ça. Je crois qu'on impose des cours de dressage.
Oui.
Voilà.
Oui.
Il y en a à Villers-de-Vatorval, d'ailleurs.
Oui, hein, oui, tout à fait.
À ce sujet-là, ça n'a rien à voir, mais j'ai quand même envie de le dire. Donc, il y a un club canin à Villers-de-Vatorval, et qui est à côté d'une pâture dans laquelle il y a des vaches. Et chaque fois qu'il y a une réunion de chiens, toutes les vaches sont alignées les unes à côté des autres, en train de regarder les chiens.
Oui, c'est très drôle.
Et elles restent là toute la séance, quoi. Enfin, pendant qu'elles ruminent. Hein.
Et j'allais demander si elles rigolaient ou...
Non, ça, on ne les a pas vues rire.
On ne les a pas vues rire, mais elles sont très attentives. Et je crois qu'elles soutiennent les chiens, en fait, dans leurs efforts devant les différents obstacles.
Oui, ou bien se moquent de celui qui est là. Je ne sais pas très bien. Enfin, voilà. Donc, je vous conseille donc maître et chien, communiquer sans aboyer. Ceci dit, l'autre est intéressant aussi, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu trop de photos, un peu trop de textes. Et sous certains aspects, ce n'est que mon avis. Hein. Ça brouille un peu les pistes plus qu'autre chose. Voilà, voilà.
Un peu moins concret, peut-être.
Je trouve. Mais ce sont deux petits livres, tous les deux. Hein, c'est pas très. Mais en tous les cas, il y a beaucoup, beaucoup de problèmes qui peuvent être résolus très facilement par une meilleure communication. C'est d'ailleurs vrai avec les humains aussi. Hein.
Oui.
Et comme illustration, pour rester dans le domaine des chiens, c'est une vieille chanson qui. Voilà une chose qui ne peut plus se passer de nos jours. Hein. C'est dans une vitrine, dans une maison privée, comme ça, il y avait des petits chiens qui étaient exposés. On rentrait dans la maison et on demandait c'est combien pour ce petit chien?
Combien pour ce chien dans la vitrine? Ce joli petit chien jaune et blanc. Combien pour ce chien dans la vitrine qui penche la tête en frétillant? Je dois m'en aller en Italie en laissant tout seul mon mari. Un chien lui tiendrait bien compagnie en étant toujours avec lui. Combien pour ce chien dans la vitrine? Ce joli petit chien jaune et blanc. Combien pour ce chien dans la vitrine qui me regarde en frétillant? Je viens de lire que dans les nouvelles il y a des voleurs de cœur. Si de mon mari le cœur chancelle, il protégera mon bonheur. Je n'ai pas besoin de souris blanches, ni même d'un perroquet savant. Quant aux poissons rouges, même un dimanche, il aurait l'air bête en les promenant. Combien pour ce chien dans la vitrine? Ce joli petit chien jaune et blanc. Combien pour ce chien dans la vitrine? Eh bien, c'est d'accord, je le prends.
Voilà, combien pour ce chien, mais il me semble qu'Isabelle a aussi quelque chose à dire hein, au sujet de la communication.
Mais oui, parce que je vous entends parler de chats, de chiens, de communication, et ça me rappelle une petite histoire toute mignonne qu'on peut raconter en néerlandais, en français, en anglais, voire en deux ou trois langues, mais je vais vous la raconter en français. Donc c'est l'histoire d'une maman chat, donc une chatte avec ses chatons, et c'est le début du printemps, mais il pleut. Alors, ils sont là, tous enfermés dans l'appartement. Ils regardent par la fenêtre la pluie qui tombe indéfiniment. Et puis, tout à coup, chouette, un rayon de soleil, un petit arc-en-ciel, et la pluie s'arrête. Alors, vous imaginez bien les chatons tout contents. Oh, on va pouvoir aller se promener. Il y a un parc en plus devant l'appartement. Et maman chatte ne résiste pas. Ces petits chatons ont besoin de bouger. Elle dit « Allons nous promener ». Et les voilà partis, tous les quatre. Ils sont trois chatons, la maman chatte en tête. Ils traversent la rue, prudemment. Ils arrivent dans le parc. Et puis voilà, les chats s'ébattent, font des roulades, se courent les uns après les autres. Et oh, au pied d'un arbre, un gros chien. Impressionnant. Les chatons reculent. Et puis le chien ouvre un œil. Les chatons avancent, sont curieux, avancent de plus en plus. Et le chien ouvre le deuxième œil. Alors les chatons apeurés retournent près de leur mère et la mère, elle, redresse la tête, redresse les épaules et dit à ses chatons « Regardez bien et écoutez ». Et elle s'approche du chien, un chien énorme, je le rappelle. Et là, elle regarde le chien et elle fait « Ouf, ouf, ouf !» Et le chien s'enfuit, apeuré. Maman chatte retourne près de ses chatons et leur dit « Vous voyez, c'est important d'apprendre une autre langue et d'être bilingue au minimum. »
Ouais, c'est chouette. Voilà.
Ça. Oh oui, c'est très chouette. Oui.
Elle est très mignonne.
Oh, vraiment.
Oui, puis c'est une belle illustration. Hein.
Ben, tout à fait, la communication et l'importance de se comprendre et de faire un pas vers l'autre aussi. Donc, oui, oui. Et alors, il y a une chouette chanson, justement, d'Henri Dès qui dit que finalement, l'air de rien aussi, on sait parler toutes les langues.
Ah oui.
Ça s'appelle Polyglotte.
Polyglotte, oui. Ben, écoutons plutôt.
Moi, je sais parler toutes les langues, toutes les langues. Moi, je sais parler les langues du monde entier. J'en savais rien, mais maintenant que tu le dis, c'est enfantin. Ça va changer ma vie. J'ai des baskets, ça c'est un mot en anglais. J'ai des baskets pour faire mes petits trajets. Un anorak, mot qui vient des Esquimaux. Un anorak pour quand tu fais pas beau. Moi je sais parler toutes les langues, toutes les langues. Moi je sais parler les langues du monde entier. J'en savais rien, mais maintenant que tu l'as dit, c'est enfantin. Ça va changer ma vie. Les spaghettis, mot qui nous vient d'Italie. Les spaghettis me mettent en appétit. C'est le yaourt, mot qui vient de Bulgarie. C'est le yaourt, mon dessert de midi. Moi je sais parler toutes les langues, toutes les langues. Moi je sais parler les langues du monde entier. J'en savais rien, mais maintenant que tu l'as dit, c'est enfantin, ça va changer ma vie. J'achète au kiosque, mot qui nous vient de Turquie. J'achète au kiosque mes journaux favoris. Sans un copec, mot qui nous vient de Russie. Sans un copec, je peux pas faire des folies. Moi je sais parler toutes les langues, toutes les langues. Moi je sais parler les langues du monde entier. J'en savais rien, mais maintenant que tu le dis, c'est enfantin, ça va changer ma vie. C'est sur un yacht, mot qui vient du hollandais. C'est sur un yacht que je passe le mois de juillet. Grâce au judo, mot qui nous vient du Japon. Grâce au judo, je ne suis plus un poltron. Moi je sais parler toutes les langues, toutes les langues. Moi je sais parler les langues du monde entier. J'en savais rien, mais maintenant que tu le dis, c'est enfantin, ça va changer ma vie. Par cette chanson, mot qui nous vient du français. Par cette chanson, je peux dire désormais, je suis polyglotte, mot qui vient du grec ancien. Je suis polyglotte et j'épate les copains. Moi je sais parler toutes les langues, toutes les langues. Moi je sais parler les langues du monde entier. J'en savais rien, mais maintenant que tu le dis, c'est enfantin, ça va changer ma vie.
Henri Dès, polyglotte donc. Alors, il n'est pas nécessaire de parler plusieurs langues pour jouer, je pense.
En tout cas, les règles sont écrites dans suffisamment de langues que pour qu'on soit tranquille.
D'accord. Alors, qu'as-tu proposé
là, je vais vous proposer le jeu Kauna, qui fait partie de la catégorie duo du prix Joker. Et c'est un jeu auquel on peut jouer normalement à partir de 10 ans, mais il est suffisamment simple pour que les enfants de 8 ans habitués au jeu puissent commencer à l'essayer. Alors, comme c'est dans la catégorie duo, évidemment, il ne peut se jouer qu'à deux joueurs. Et une partie va durer entre 30 minutes et une heure à peu près. Le but du jeu, c'est très simple. C'est vous êtes sur l'archipel de Kauna. Et le principe, c'est de prendre toutes les îles et de contrôler l'archipel. Pour ce faire, vous allez devoir relier les petites îles entre elles au moyen de ponts en bois. Et donc, chaque joueur a 25 petits ponts. Il y a 25 petits ponts blancs et 25 petits ponts noirs. Et il y a 24 cartes d'îles pour pouvoir les contrôler les unes après les autres. Alors, grosso modo, chaque joueur a 5 cartes en main et peut jouer entre une et la totalité de ses cartes. Ça, c'est à lui de choisir au moment où c'est son tour de jouer. Quand on joue une carte île, on peut placer un pont sur une île afin de la relier à une autre. Alors, le problème, c'est qu'une fois qu'on a placé un petit peu nos ponts, etc., on va très très vite être coincé. Après tout, je joue, tu joues, tu joues, je joue. Au bout d'un moment, qui a le contrôle? Et c'est là que les cartes interviennent vraiment. C'est que quand on décide de choisir deux cartes de la même île, on peut détruire un pont adverse. C'est assez pratique. Parce que du coup, ça permet de reprendre le contrôle d'une île. Et comme toutes les îles sont connectées, détruire un pont qui va d'une île A à une île B peut faire perdre le contrôle sur l'île A, mais aussi sur l'île B. Ça dépend de combien d'accès.
Ah, c'est pratique, mais c'est moche. Moi, j'aimais bien l'idée de relier toutes les îles par des ponts. Je trouve ça beau.
C'est très, très stratégique. Et dans ce jeu-là, le but du jeu, c'est d'avoir le monopole.
D'accord.
Donc, voilà. Après, au niveau du jeu en lui-même, il est très, très beau et il est fait uniquement en matériaux recyclables, puisque tous les petits pions, tous les petits ponts, etc., sont faits soit en carton, en cellulose de carton, soit en bois naturel. Donc,
Et est-ce que c'est une tendance globale ou est-ce que c'est à la bibliothèque de Jamoigne où vous êtes particulièrement attentif à acheter des jeux justement qui sont pour l'environnement et qui font attention aux matériaux?
Ça se fait de plus en plus. Et après, à titre personnel, je trouve ça drôlement plus intéressant parce que le jeu en bois, il va durer plus longtemps, il va être plus résistant, il est moins mauvais pour la planète. Donc, j'ai envie de dire, c'est bénéfice pour tout le monde, pour le coup.
Oui, oui. Donc, c'est quand même une tendance naturelle chez les fabricants qui ont compris l'intérêt. Oui.
Ça se fait vraiment de plus en plus. Et oui, franchement, moi, je trouve que c'est une très, très belle initiative parce que on utilise suffisamment de plastique dans la vie de tous les jours pour ne pas en plus en rajouter dans les jeux de société qui peuvent s'en passer. Voilà. Après, il y a certains jeux qui ne peuvent pas encore s'en passer, notamment tous les jeux qui fonctionnent avec des piles, le ni oui ni non, ou le frappe-main, ou ce genre de choses. Mmh. Mais quand on peut s'en passer, ma foi,
et quand tu parles de carton recyclé, le carton recyclé, c'est solide aussi ?
Oui, c'est relativement solide. Oui. Franchement, bon, après, évidemment, si on décide de prendre le petit pion et de le plier en deux.
Oui, mais je suppose que. Voilà.
Et pas de l'acier non plus, ça finit par plier. Mais pour une utilisation classique, on va dire, le jeu peut tenir facilement une dizaine d'années.
Ah
quoi.
Oui, bon, d'accord.
Ce qui fait déjà une très belle vie pour un jeu de société. Hein.
Oui.
Donc voilà, Kauna dans la catégorie duo. Donc le prix Joker le conseille à partir de 8 ans pour les bons joueurs, ceux qui ont l'habitude, c'est vrai. Pour les enfants qui découvrent le jeu de société, il vaut mieux attendre 10 ans à peu près, comme ça ils ont vraiment toutes les règles, ils peuvent vraiment avoir toutes les règles en tête facilement, quoi.
Tu nous rappelles ce que c'était le prix Joker, là, ce que tu as parlé de ça?
Alors le prix Joker. C'est ça, donc en gros, il y a 8 catégories qui contiennent chacune 3 jeux de société. Donc, il y a les tout petits, il y a la catégorie duo où on ne peut jouer qu'à deux, il y a la catégorie famille à partir de 8 ans, il y a la catégorie famille plus à partir de 10 ans avec les jeux plus compliqués. Et en fait, le principe du prix Joker, c'est vous pouvez aller soit en bibliothèque, soit dans les magasins participants, emprunter les trois jeux, les essayer en famille ou en duo, ou un petit peu comme vous voulez, vous les testez tous les trois, et ensuite vous votez pour votre jeu préféré, qui sera donc primé à la fin de l'année.
Oui, ça c'est chouette ça comme principe, c'est vrai, c'est des vrais gens quoi, c'est pas des critiques.
Oui, c'est ça qui est chouette. C'est pas comme le prix Goncourt où là c'est décidé par des gens du métier vraiment tous ensemble. Là le prix Joker c'est vraiment pour toute personne qui a envie de participer, et ça c'est très très chouette.
Mmh. Et donc oui, ce sont des utilisateurs auxquels on peut s'identifier et en qui on peut faire confiance.
C'est ça. Mmh. Voilà. Dans le même style, pour les livres jeunesse, il y a aussi le prix Verzel, où là, on invite les enfants à découvrir, je pense qu'il y a cinq ou six livres.
Oui, cinq catégories.
Il y a cinq catégories, et dans chaque catégorie, il doit y avoir cinq ou six livres à peu près.
Oui, cinq livres, oui.
Et ils doivent à chaque fois lire ou écouter les cinq livres, choisir leur préféré, et on renvoie tout ça à la Ligue des familles qui compile les votes et qui finit par décerner le prix. Mmh. Voilà. Il me semble qu'à Florentville, vous avez aussi le prix
Oui,
Verzel.
Oui, on le suit avec beaucoup de classes qui l'attendent chaque année. Ça marche bien. Et les sélections sont faites par contre au préalable par des libraires, des bibliothécaires, enfin des gens qui aiment la littérature jeunesse. Et en général, c'est de grande qualité.
Oui, ouais. C'est ce que j'ai constaté aussi à chaque fois. Il y en a toujours... Qui nous touche un petit peu plus particulièrement. Moi, je sais que, par exemple, dans celui de cette année, c'est le Jardin d'Evan qui m'a beaucoup plu.
Oui.
Parce que c'est l'histoire d'un renard qui s'occupe de son jardin, qui est jardinier, et qui, en fait, pour en revenir au chien, justement, qui perd son chien, donc son chien décède. Et donc, on suit toutes les étapes du deuil d'Evan, qui a perdu son chien, pour, au final, se rendre compte que la mort fait partie de la vie. Et tout ça, c'est destiné à des enfants... Je pense qu'il est dans la deuxième chouette, donc ça doit être à partir de 6 ou 7 ans, à peu près.
Mmh. Oui. Oui, c'est vrai qu'il est avec des illustrations magnifiques et un texte et
très
une histoire très, très juste et très, ouais. Voilà, très subtile. C'est pas, il n'y a pas de pathos, mais...
Tu peux rappeler le titre, Coralie, s'il te plaît ?
Donc, Le Jardin d'Evan.
Le Jardin d'Evan, d'accord.
Oui. Mmh. Voilà, c'est mon petit coup de cœur personnel de cette année. On en a tous, je pense.
C'est de Brian Lice.
D'accord, je vais noter.
Voilà.
Donc voilà, celui-là est vraiment très très bien. Et bah, si ça vous tente, j'ai encore un dernier jeu à vous proposer.
Pour un plus grand alors.
Ah oui.
Pour des ados, alors, pour des adultes.
Celui-là va être pour ados et adultes, en effet. Il fait partie de la catégorie famille plus, donc au minimum, il faut avoir 10 ans pour bien le comprendre. Donc, il s'appelle Splendor. Il se joue de 2 jusqu'à 4 joueurs et une partie dure environ 30 minutes. Ça peut durer un petit peu plus si vous avez de fins stratèges en face de vous, mais en général, en 30 minutes, c'est plié. Alors, imaginez-vous à Venise... Comme c'est beau, Venise. Et vous êtes marchand de gemmes. Donc, le but du jeu, à travers les 90 cartes proposées dans le jeu et les 40 jetons gemmes, c'est de récupérer un maximum de gemmes qui vont vous permettre d'investir le marché et de gagner en notoriété. C'est ça qui va être intéressant. C'est la personne qui a le plus de notoriété va remporter la partie.
Ce sont bien des gemmes GE2ME, des pierres.
Des pierres précieuses,
oui. C'est pas « je récolte des gemmes sur ma page Facebook ».
Des highlights.
Ah non, c'est pas exactement la même chose. Note que ça pourrait fonctionner plus ou moins sur le même
mais
système.
Mais oui, c'est le même thème, en fait.
Finalement,
j'ai
beaucoup de rubis,
j'ai beaucoup de topaz. Voilà. Mmh.
C'est ça. Comme quoi, Facebook a tout piqué. Alors voilà, dans ce jeu-là, donc vous avez 40 jetons qui sont malheureusement en plastique, mais qui sont en plastique recyclé hyper résistant. Donc ça, c'est quand même super important de le préciser. Parce que du coup, effectivement, celui-là, pour le casser, il va falloir y aller. Hein. Il ne va pas se casser en pliant. Il est vachement résistant, très très sympa. Et donc, il y a 6 couleurs de gemmes. Vous avez, évidemment, tu les as citées, les rubis, les topazes, les saphirs, les émeraudes. On connaît tous un petit peu ces grandes pierres précieuses qui sont fort connues. Et en fonction du nombre de gemmes que vous avez dans votre petite poche, puisque vous pouvez en piocher jusqu'à 3 par tour, vous allez devoir les revendre, soit pour acheter une mine, qui va vous permettre d'avoir des gemmes d'une certaine sorte tout au long de la partie, soit pour payer des nobles, qui vont rapporter plus de points de prestige, puisque quand un noble vous aime bien, il en parle à tous ses amis, et donc c'est plutôt pratique. Donc voilà, c'est très facile d'utilisation, c'est très très rapide à prendre en main. On dispose les cartes et il y a des plans dans les règles pour savoir comment les disposer avec le nombre de joueurs. Donc on dispose ses cartes, chacun choisit ses petites gemmes et après, c'est le meilleur qui gagne. Il faut bien penser à quel coup on va faire, à quel coup les autres vont penser pour essayer soit de les bloquer, soit de ne pas se faire bloquer. Parce que si on est à 2 sur la même carte, c'est le premier qui passe qui la prend.
Waouh.
Ah oui. Ça, c'est vraiment du compétitif à plein pot. Hein.
Ah, il est très, 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 très compétitif. Vraiment. Mais il est très, très chouette. Et quand on joue avec des bons amis, en général, ça se passe très, très bien. Moi, je joue très souvent avec ma meilleure amie et son compagnon. On s'est toujours très bien amusé. Et on est toujours plutôt impressionné, en fait, de voir le nombre de coups à l'avance qu'on peut penser. C'est un petit peu comme les échecs, en fait, mais à plusieurs.
Ah bon ?
Et comme ça se passe à Venise et que probablement, malheureusement, le carnaval n'aura de nouveau pas lieu, on peut, en petit hommage, vu que c'est bientôt le carnaval, jouer en se déguisant, en mettant des masques.
Mais pourquoi pas ? Après tout, tout le monde est libre.
Voilà.
Bon, soyons
fous. Une idée qui me vient, comme ça, je ne sais pas pourquoi.
Et puis, on a toujours un masque sous la main, donc...
En plus
C'est peut-être l'occasion, justement, de reprendre des masques en tissu blanc, de les décorer avec un petit peu de broderie.
Quelque
on pourra demander à Lou de nous crocheter des petits masques pour faire...
Comptez sur moi.
Museau de chat.
Oui, comptez sur moi.
Ah oui, ben c'est bien.
Donc
ça,
voilà,
ça,
franchement, ben voilà. Moi, c'est mon petit préféré dans la sélection de cette année, Splendor. Je trouve qu'il est vraiment génial. Et il est vraiment... Moi, je déteste les jeux de stratégie où il faut réfléchir pendant 30 ans. Mais celui-là, il passe vraiment super bien, quoi. Il est facile, il est rapide et il est vraiment très, très chouette.
Oui, une demi-heure, hein, tu as dit, je pense.
Oui, voilà, c'est une petite demi-heure. Donc, c'est pas... Voilà, quand on a un petit peu de temps devant soi, c'est toujours sympathique. Et vu que je vous ai parlé de labyrinthe, que je vous ai parlé d'île déserte, je me suis dit qu'on pouvait éventuellement s'écouter La traversée du désert de Louise Attaque.
Ah ben oui, et puis quand on a un désert à traverser, c'est peut-être bien d'avoir des jeux sur soi aussi. Hein.
Ah ben ça permet de pas s'embêter.
Et ben voilà, allez, écoutons Louise Attaque.
Il n'y a rien à faire, pas au moment, regarder le monde à l'envers, croire en tout, en l'éphémère, décider. D'aller de l'avant, car il y a dans l'air, par moments, ce léger souffle séduisant. Peut-on rester débutant, apprivoiser ses nerfs?
Donc après cette traversée du désert qui, ma foi, n'était pas si désagréable, c'est souvent la traversée du désert, c'est associé à des idées très négatives, mais ce n'est pas le cas ici. Je pense qu'Isabelle va nous parler du roman de Marie Fissen, qui a été campée au camping Le Canada, si j'ai bien compris.
Alors oui, elle nous parle de sa tante Ida et elle nous parle d'une autre tante. Et cet extrait-ci va nous faire voyager en effet.
Eh bien voilà, on va t'écouter, hein, Isabelle.
Nous voici donc avec la mort de la grand-mère Ida. Autant qu'ils avaient dû la voir derrière son comptoir, Lida Bossard, ces villageois qui venaient des quatre horizons de la contrée. Ce soir, son nom ferait le tour des étables et des jardins. Et oui, elle est morte, Lida. Bientôt, le clocher va l'annoncer. Tiens, on sonne à mort. Alors comme ça, il n'y en avait plus des Bossards ? Oh que si ! Et sa fille Juliette vous interpellerait pour dire le contraire. Le premier, l'oncle Edmond, vivait toujours au Canada où il s'était exilé après la faillite de la brasserie du Fontenay. Et par là, la malterie que son frère Jules exploitait à pain qui n'avait plus sa raison d'être. Jules était mort en arrivant au Brésil où il espérait se refaire une raison de vivre et faire venir auprès de lui sa femme et les enfants. La première n'avait pas surmonté son deuil, tandis que les deux filles et le garçon prirent à la suite la direction de Paris. À vrai dire, la période faste des brasseries artisanales passait doucement de vie à trépas. Enfin, maman rassembla son monde et l'on ne nous demanda même pas si nous avions faim. Le pauvre chien Tony, enfermé au tréfonds de la maison, ramassait ses forces et se lamentait de plus belle. Au moment de partir, tante Juliette s'empressa auprès de son frère. « Tu reviens pour la nuit, j'espère. »« Quoi ? Elle voulait nous enlever notre père ? » Mais si la tempête s'épanchait à grands coups ou si un incendie s'allumait dans un coin, nous n'aurions personne pour nous venir en aide. Il n'y aurait que la petite Ida pour crier au secours, car notre frère, lui, n'y croirait pas du tout. Des couillonnades qu'il dirait. « Oui, Ida. » Le souper autour de la table s'était fait triste et sombre. Nous, les gosses, fixions tour à tour un œil sur notre père. Lui aussi nous regardait, et puis baissait les yeux. Personne ne parlait, à l'exception de maman, pour bien nous servir. Peut-être aussi pour casser cette ambiance qui nous enserrait. Nous l'aimions tant, notre grand-mère. Enfin, papa dit, « Je pense surtout à Marie. » Non, ce n'était pas moi, mais sa jeune sœur que nous ne connaissions que par ses lettres qui nous arrivaient de Chine, 4 à 5 fois par an. « Il faudra lui écrire, » dit maman, sachant que la tâche risquait fort de lui incomber. « Juliette s'en chargera, » répondit papa. Tante Marie, ou tante Syrah, était une franciscaine missionnaire de Marie. Elle avait quitté l'Europe le 10 mai 1914 après 4 ans passés à Rome. Tante Juliette conservait jalousement sa dernière carte écrite depuis le port de Naples. « Un pied sur terre, un pied sur mer, chère mère, frères et sœurs, je vous dis adieu. Adieu à mon pays, adieu à l'Europe, adieu. » Elle avait fait promesse de ne jamais revenir. La guerre fut déclenchée le mois d'août suivant et le voyage vers la Chine dura de longs mois. Ce soir, je n'étais plus celle d'hier. Non pas que mon manteau fût trop court et que maman s'efforcerait de l'allonger de quelques pouces. Mais grand-mère n'était plus là. Grand-mère était morte. Et c'est ça qu'ils font, les morts. Ils vous poussent en avant tandis qu'ils partent en arrière, jusque sous terre. Alors ça ne les regarde plus si vous restez avec une peine si grosse qu'elle s'éclate à gros boum dans votre tête. Le lendemain, très tôt, maman avait remis la clé du garage à un ouvrier. Il n'était pas encore rentré. Papa ne reviendrait que lesté de 2 ou 3 tasses de café fort. Sûrement, il aura dormi sur le haut fauteuil d'osier glissé dans la chambre, face à sa sœur. Elle n'aura eu de cesse de le regarder, si bien que lui aura maîtrisé son envie de tourner son siège autrement, ce qu'il n'aurait pu faire devant sa mère étendue froide entre eux deux. Le beau-frère sera resté assis un peu à l'écart, revenu de Bastogne où il était allé chercher sa fille au pensionnat des Sœurs de Notre-Dame, que d'ailleurs il n'avait pu ramener. Pas de congé pour l'enterrement d'une grand-mère. Peut-être que les bonnes sœurs n'en avaient jamais eu de grand-mère. L'un et l'autre se seront assoupis tour à tour. Entre-temps, ils auront égrené le chapelet, repris aussitôt comme des enfants pris en faute de ne pas bien remplir le rôle de veillée funèbre. Et puis, ils auront refoulé leurs lourdes pensées, le passé revenu triturer leur cerveau. Parce qu'on ne l'arrête jamais ce temps qui vous devance, et avec les années font un homme, une femme. On n'ose plus se confronter à la réflexion, ni vouloir non plus se regarder en face car le chemin propre à chacun les a fait différents. Le frère surtout, constamment en but de gommer l'inacceptable, la séparation d'un père et d'une mère. Les raisons d'alors lui paraissaient maintenant injustes, insoutenables. La dislocation de la famille voulue par une mère trop soumise à un pouvoir d'église, fut-il même chrétien. Le père rejeté malgré lui, victime aussi de son propre entêtement pour s'être confondu dans la loge maçonnique avec une promesse de vie et de mort. Au grand jamais, Juliette ne remettrait en cause une sorte de jugement boiteux fort assez pour estropier l'esprit d'un enfant. Que faire devant le visage de l'un, devenu éternellement le miroir de l'autre, tant pour le frère que pour la sœur, et que le lien maternel venait d'obscurcir à jamais. Vacances à Isel. Vainement, je m'étais insurgée. J'allais devoir passer mes premières vacances sans frère ni sœur à Isel chez tante Juliette. Sa fille unique, nommée Marie, comme moi. C'est pitié que d'entendre 36 fois le même prénom dans une famille. Allait retrouver la maison bien triste à sa rentrée du pensionnat. Sa principale compagnie était celle de sa grand-mère alors que ses parents s'occupaient au magasin. C'est donc sa filleule qui se trouvait désignée pour la distraire. J'étais devenue une marionnette que l'on déplaçait au gré des autres. Façon de boucher un trou. Et quel trou! Ma mère m'avait bien expliqué tout cela, en ajoutant qu'elle aimait beaucoup sa nièce et que je devais être très gentille avec elle. Voilà, la suite la fois prochaine pour savoir comment se sont passées les vacances des deux maris.
Gai à voyager. Hein. Et on a tellement voyagé qu'on est arrivé à la fin de l'émission.
En gare.
Oui, en gare de Gérouville, en gare de Jamoigne, en gare de Florentville, enfin, tous ces hauts lieux de la culture gaumaise. Voilà, que dire d'autre que au revoir, de vous souhaiter que tout se passe aussi bien que possible. Alors, au revoir Lou, au revoir Isabelle et Coralie.
Au revoir. Au revoir à tout le monde.
Au revoir à tous.
À très bientôt.
Au revoir.